parce qu'elle va présenter un projet où les trois chercheurs impliqués sont dans tous les coins du monde et donc lui ont préparé des planches et un texte pour que malgré tout on effleure le sujet ici.
Alors texte pas vraiment, mais enfin j'ai des éléments et puis après c'est un peu revu à ma sauce. Je fais un exercice assez périlleux, présenter le travail d'autres sans être du tout spécialiste. Donc enfin je vais essayer de faire l'exercice. Voilà. Mais je pense que ça vaut quand même la peine que vous ayez une idée de ce qu'ils ont fait, même si c'est dommage qu'ils n'étaient pas disponibles. Donc c'est un travail qui a été fait, mené par Anders Møller du laboratoire d'écologie systématique et évolution, donc une partie écologie, Yves Balkanski au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et Nikolaos Evangeliou qui est vraiment celui qui a été au cœur du projet et qui a fait le lien entre ces deux personnes. Le Radio Climfir, l'idée c'est d'étudier la radioactivité, le climat, les feux et l'impact sur la santé humaine et de se poser la question si jamais c'est suite en fait à tous les incendies qu'il y a eu en été avec la canicule de l'été 2010 en Russie, un certain nombre de feux, se poser la question si en fait du coup ces feux, s'ils arrivent, une quantité importante de feux dans la région de Tchernobyl ou il y a de la radioactivité accumulée dans les plantes, est-ce qu'il n'y a pas un risque de remobiliser une quantité importante d'éléments radioactifs dans l'atmosphère et de les transporter, et donc d'avoir un risque sur la santé. Et c'est vraiment basé sur le fait qu'Anders Møller a une très grande connaissance, un spécialiste de l'étude de la radioactivité dans les écosystèmes autour de Tchernobyl. Yves Balkanski, c'est la modélisation du transport de particules dans l'atmosphère. Et c'est de mettre ces compétences ensemble qui a mené ce projet. Alors, en fait, là, c'est sur l'impact au moment de l'accident de Tchernobyl, la quantité de retombées de césium-137, qui est l'élément radioactif. Alors, normalement, il a une durée de vie d'environ 30 ans. Mais quand c'est combiné, alors je n'ai pas trop extrêmement bien compris, mais de façon effective, ça, c'est une durée de vie d'une dizaine d'années quand c'est combiné avec d'autres facteurs. Donc là, c'est au moment, lorsqu'il y a eu le dépôt, les quantités et où ont été ces dépôts. Alors dans la zone, proche de la zone d'émission, on trouve l'Ukraine, la Biélorussie et un peu aussi dans les Alpes. Avec donc là un zoom sur ces deux régions, la région de Tchernobyl et cette région aussi de Biélorussie où on a eu un dépôt important. Avec, heureusement, c'est allé vers le nord et pas vers le sud parce qu'on a Kiev qui est pas très loin et avec 1 million de personnes pas très loin. Alors en fait, ils sont allés sur le terrain, même si c'est encore difficile d'atteindre. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme la zone est complètement abandonnée, qu'il n'y a plus de gestion de forêt, eh bien en fait, c'est en train de devenir, là c'était une route, ça devient complètement de la matière organique partout, sans compter tous les végétaux qui ont été, des arbres qui ont été détruits au moment de la de l'explosion et qui reste sur place. Et donc tout ça, ça fait une matière organique présente en grande quantité. On est passé de 53 à 75% de forêt boréale dans la zone. Et comme il n'y a aucun management, la possibilité, s'il y a un feu qui s'installe, il a de fortes chances de bien se propager. Alors il y a eu, par les images satellites, on peut regarder, là c'est en Europe, la fréquence, donc plus la taille est grande, plus il y a d'occurrences de feu, et on a la couleur, c'est la saison. Donc en fait dans cette zone, on a effectivement l'occurrence de feu, essentiellement printemps-été. Donc il y a des feux, il y a déjà eu un certain nombre de feux. Dans la zone. Donc avec le modèle d'atmosphère couplé, alors ils ont couplé avec un modèle de feu, et de végétation pour pouvoir voir la quantité, prenant en compte la quantité de césium mesurée sur place, de voir quelle était la quantité de césium qui pouvait être remobilisée dans l'atmosphère. Donc on a en fait ici, pour des cas réels de feu, donc là le 31 juillet 2002, 20 mars 2008, 19 juillet 2010, trois cas de feu avec l'extension telle qu'elle est observée par satellite, les conditions météo de cette situation-là, et puis le modèle qui peut calculer la quantité de césium qui peut être remobilisée dans l'atmosphère. Et donc on voit les panaches de césium 137. Alors pour 2010, ils ont regardé différentes hypothèses ici, ce sont les quatre du bas, qui vont dépendre en fait à quelle altitude on va être injecté le césium. Et ça dépend du type de feu qui peut laisser envoyer du césium que vers 2-3 km, au contraire vers 4 ou vers 6, ça dépend après de l'altitude d'injection et du type de feu. Et ils regardent dans l'atmosphère, au niveau de, dans le temps, au niveau du cycle saisonnier. Alors vous avez en bleu, il doit y avoir les feux de 2002, en vert 2010, en 2008 c'est en rouge, et puis les différents 2010 sont différentes couleurs. Donc tout ça c'est des cas 2002, 2008, 2010, calculés par le modèle d'atmosphère. Et puis ici, cette ligne, c'est le cas de Tchernobyl. Alors là, on est dans les estimations pour les années récentes, on est autour de 10 térabécquerels. Quand on était à Tchernobyl, il y a 4 ordres de grandeur, on était sur des ordres de grandeur de 100 000 térabécquerels. Hein. Donc c'est beaucoup moins, mais par contre, Tchernobyl, ça a été un événement et après ça a fortement décru, alors qu'avec les feux, on maintient une certaine concentration dans l'atmosphère. Donc il n'y a pas le même profil que dans... Alors, à partir de là, ils peuvent calculer là où le césium 137 va se déposer, donc correspondant toujours au feu de 2002, celui de 2008, 2010, et toujours pareil, les trois autres cas de sensibilité à différents niveaux d'injection, et qui montre qu'effectivement, donc, c'est très lié au panache atmosphérique qui va se redéposer après sur le sol. Et on peut comparer, pas avec les mêmes ordres de grandeur, il faut faire attention, hein, ici on est sur du maximum 40 becquerels par mètre carré. Ici, c'est la partie qui reste de l'épisode initial de Tchernobyl, en 2002, en 2008, en 2010. Alors ça vous paraît tout petit, mais c'est du multiplié. C'est du 40 000, hein, donc c'est du multiplié par 1000. Hein, c'est 3 ordres de grandeur, l'échelle est à 3 ordres de grandeur de différence. Hein. Donc effectivement, il y en a plus qui restent de l'épisode initial, même si évidemment ça décroît dans le temps avec cette durée effective de l'ordre de 10 ans. Mais du coup, ce que l'on voit, c'est que ça, évidemment, les feux du coup ont une capacité de remobiliser et d'élargir, enfin d'étendre la zone par rapport à la zone de dépôt initiale. Alors, à partir de là, ils ont étudié différents scénarios. Et qu'est-ce qui se passerait si, en fait, on avait un feu ou des feux nettement de plus grande ampleur? Apparemment, il y a déjà l'exemple, je crois que c'est 2002 ou 2008, ça a déjà atteint 8% de la surface. Et donc, ils ont regardé des scénarios avec 10%, 50%, 100% de feu de la zone qui contient actuellement, qui est la zone d'exclusion de la zone de dépôt des émissions de Tchernobyl. Donc, ils regardent des scénarios et si on avait un feu encore plus important, ce qui n'est pas un scénario complètement aberrant dans la mesure où il y a toute cette accumulation de matière organique et où, en fait, on peut se retrouver avec une situation favorable, d'autant plus que, comme c'est une zone où personne ne va, c'est-à-dire que s'il y a un feu, seule intervention, c'est par au-dessus, c'est-à-dire personne ne va aller sur place arrêter le feu. Donc, voilà, donc c'était l'idée de regarder ça en regardant l'Ukraine, la Biélorussie, et aussi une zone en Russie où il y a également un peu de... Il y a aussi du dépôt, et on a aussi la quantité de césium-137 remobilisable. Donc ils ont regardé des, en haut, le cas où on brûle 10% de la zone, 50% au milieu, 100% en bas. Deux scénarios, première colonne, on injecte vers 3 km d'altitude. Deuxième colonne, c'est un feu, alors ne me demandez pas les caractéristiques, mais il y a des feux qui peuvent envoyer donc, à 6 km. Donc on injecte encore plus haut. La caractéristique, c'est que du coup, ça va être transporté plus loin que si on injecte qu'à 3 km d'altitude. Et on a l'échelle colorée, c'est de la concentration en césium-137 en millibécquerel par mètre cube. Plus c'est rouge, plus c'est fort. Donc évidemment, si on a 100% de la surface, on a une bien plus grande quantité. Alors, le même genre de diagramme que ce que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire la concentration dans l'atmosphère en fonction des saisons. Hein. Et puis, ces différents scénarios, on est autour de 0,1 pétabécquerel. Ce qui est intéressant, évidemment, ça s'accumule. Là, c'est en par mètre cube, mais après, il faut compter la quantité intégrée dans l'atmosphère et en surface. Et il représente ici donc, le niveau de ces trois scénarios par rapport ici en bleu clair à Tchernobyl. Et même, ils ont regardé, ils ont comparé par rapport à Fukushima. Donc, on est disons, autour de 0,1 et 3 ordres de grandeur sur la partie de Tchernobyl, mais on voit que la diminution après dans l'atmosphère est du même ordre de grandeur que ce que pourraient remobiliser ces feux. Alors, autre indicateur, alors il y a toute une échelle en fonction de la quantité de césium-137, de la quantité du risque pour la santé de radiation nucléaire. Et en fait, il a utilisé, si j'ai bien compris, la même couleur dans cette gamme que ceci, c'est-à-dire que quand on atteint du rouge, ça correspond quand même à un risque sérieux. Et effectivement, si on brûle 100%, on peut atteindre un risque qui atteint les valeurs critiques. Alors, donc, dans ces scénarios, si je reprends le scénario donc, de 2010 à 10, 50, 100, on peut le comparer à ce qu'il reste de Tchernobyl. Donc on voit que par rapport à ce qu'il reste, si on brûle 100% de la zone, on commence à atteindre les ordres de grandeur de ce qui reste actuellement, mais qui du coup est remobilisé et se redépose. Et on peut le traduire en dose. Et quand c'est traduit en dose, par contre, ce qu'ils disent, c'est que les doses... Bon, non, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais... En fait, que c'est pas non plus des doses si énormes. Ils disent que c'est des doses qui sont identiques à si on passe, si on fait une radio en rayon X, ou même à un vol transocéanique. Je savais pas qu'on prenait aussi des doses par un vol transocéanique. Je vais peut-être voir les vols un peu autrement que je les voyais jusque là. Bon, voilà. Donc c'est du même ordre que ce qui existe. Hop là, excusez-moi. D'une certaine façon, il faudrait tout brûler pour que ce soit à peu près de l'ordre de ce qui existe, pour remobiliser à peu près ce qui est actuellement encore en dépôt. Et ça reste quand même des doses, pas nécessairement si énormes. Enfin, c'est non négligeable s'il y a un feu quand même important. Alors après, ils ont travaillé pour le traduire par rapport à la santé. Alors ils ont utilisé deux modèles. Alors là, je m'éloigne encore plus de mes bases, parce qu'encore quand c'est du transport atmosphérique, je ne suis pas trop, trop loin de mes bases, mais là, ça devient plus dur. Ils ont utilisé l'outil ERICA, qui est un outil utilisé par l'Union européenne et puis par l'AIEA, et qui va permettre de traduire à partir de la concentration dans le milieu, comment ça se concentre progressivement dans les différents niveaux, j'imagine, de la... dans l'organisme jusqu'à être des doses internes et absorbées et être vraiment sur des problèmes de santé. Et alors l'autre modèle, qui est un modèle qui donne le risque de cancer en fonction des doses de rayonnement. Mais si j'ai bien compris, c'est un modèle qui est relativement linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil. Plus on est exposé, plus il y a de risque d'avoir de cancer. Mais apparemment, ce sont des modèles qui ont été calibrés sur un certain nombre, il n'y a pas tant, heureusement, d'événements, mais enfin, qui ont utilisé les données existantes sur les différents événements et qui ont été, qui sont des modèles pour d'impact sur la santé commun, enfin habituellement utilisé. Donc du coup, ils ont regardé à partir des mêmes cartes que je vous ai déjà montrées, hein, ce qui reste actuellement à Tchernobyl. Alors, on ne voit pas très bien, je suis un peu désolée, la couleur est un peu légère. Le scénario 10, le scénario 50, le scénario 100, tout ça c'est pour les scénarios de type 2010, c'est-à-dire on prend les feux de 2010 et puis on augmente la zone, on suppose que le feu est encore plus... et prend une zone plus large, et il regarde le nombre de qui pourrait du coup y avoir le risque de mortalité liée à un cancer dans les différentes zones. Hein. Alors c'est par pixel. Au total, l'ordre de grandeur, c'est en fait dans le cas d'un épisode massif, donc c'est le cas 100%, ça pourrait mener à 20 à 240, là, une marge d'incertitude assez grande, 20 à 240 personnes qui pourraient développer un cancer, dont la moitié pourrait être avec une issue fatale. Ils ont regardé aussi ce qui pourrait se passer dans la partie écosystème et la faune, hein, parce qu'en fait, vous avez les amphibiens, les oiseaux, des invertébrés, des insectes, des herbes, des mammifères, les reptiles, les shrubs, c'est tout ce qui est buissons, des arbres. Donc voilà, ils ont regardé tout un tas de... En regardant, alors, ce qui est en violet, en fait, c'est lié à la dose de 1986, en fait. Donc c'est la dose initiale. Et vous avez, en fait, coloré, alors ça doit être en bleu clair, ici c'est un endroit où on le voit à peu près. Hein. Un bleu clair ici, 2010 scénario 10, en rouge 2010 scénario 50, en jaune vert plutôt, 2010 scénario 100, le 1986 en violet, et alors FEZ 2011, j'avoue que c'est Fukushima ça, je me demande si c'est pas Fukushima 2011, c'est possible ça, que FEZ ce soit... Fukushima. Et donc ils ont comparé, donc ça reste quand même effectivement plus faible que l'impact direct au moment de l'événement lui-même. Même s'il faut quand même faire attention parce que là ça ne compte pas des effets indirects comme le fait que les animaux peuvent aller manger de la végétation ou de l'accumulation dans les champignons, etc. C'est-à-dire que ça ne cumule pas les effets de ce type-là. Donc voilà, c'était... Alors, ils ont fait aussi un certain nombre de travaux sur Fukushima. Là, je suis restée à l'exercice initial où, dans Fukushima, ça reste... Enfin, c'est non négligeable. Il y a un certain nombre de calculs de cancer. Ils trouvent plutôt un impact plus élevé que ce qui était donné jusque-là, mais ça reste quand même 5% de la mortalité liée au tsunami lui-même, c'est-à-dire que ça reste plus faible que l'impact du tsunami. Alors c'est un groupe qui a été extrêmement productif, avec une dizaine de publications, réellement interdisciplinaires, ils ont vraiment travaillé ensemble. Et Nicolaos Evangeliou, qui a joué un rôle critique, il n'est pas là parce que tout simplement, il est passé de postdoc à embauché en Norvège. Et il commence son poste juste là et on lui souhaite une bonne continuation. Voilà, je vous remercie. Alors, répondre à des questions, je ne suis pas trop sûre que ça ait beaucoup de sens. Là, je ne crois pas que ce soit... Enfin, bon, il n'y avait pas, de consigne. oui, non, je pense que je ne vais pas pouvoir trop... Enfin, à moins qu'il y ait un truc qui est sur...
Et de manière générale, sur cette section-là, avec... on avait mis l'impact du changement climatique via la composition d'atmosphère. Vous pouvez réagir si vous avez des commentaires.
Envie de rajouter des choses auxquelles des cas qu'on n'a pas traités. Voilà, si vous souhaitez, ça peut être l'occasion aussi de mentionner d'autres travaux et de compléter ce qui a été présenté.
Juste un avis d'avis sur la question. Je vais redonner.
Attends,
Ah, excusez-moi. C'est juste des documentaires que j'ai vus. En fait, à Tchernobyl, on pensait que ce serait mort, qu'il n'y aurait plus rien, plus de vie. Puis en fait, il y a cette végétation luxuriante et des animaux qui sont toujours là. Il y a même des animaux, il y a des oiseaux qui nichent sur le sarcophage, il y a des taux de radioactivité qui défient l'imagination toujours. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir comment la nature s'est adaptée finalement aux conditions. Et comment tout a changé en fait.
C'est vrai, Anders n'est pas là, mais Anders avait travaillé juste après Tchernobyl. Ils ont travaillé sur les conséquences sur la faune sauvage, notamment sur les rongeurs. Ils n'ont rien trouvé, hein. Absolument rien trouvé.
Je veux dire, et les rongeurs ont continué.
Oui,
il y a
tout
pas
à fait.
Eu
oui, ça, ouais, tout à fait. Mais en fait, il y a deux endroits qui sont au monde qui sont très bons pour la biodiversité. C'est autour de Tchernobyl et c'est le no man's land entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
C'est là où il n'y a pas l'homme. Vous voulez intervenir? Non, c'était. Je me détends. Ce n'est pas une question. Mathilde?
Oui, enfin c'est plus un commentaire qu'une question. Ce serait vraiment intéressant qu'ils complètent l'étude par l'impact de la pollution atmosphérique liée au feu sur la santé, sans prendre en compte son côté. Radioactif, mais simplement les particules émises par les feux. Et si vous vous rappelez, en 2010, il y avait la vague de chaleur et les feux à Moscou, où il y avait beaucoup de questions sur les médias, sur justement, est-ce que, mon Dieu, ces feux vont-ils toucher des zones contaminées ? En réalité, à Moscou, l'effet simplement de la chaleur combiné à l'effet des particules, la radioactivité n'avait rien à voir là-dedans, ça a fait plus de 10 000 morts sur la seule ville de Moscou, d'après les dernières estimations russes. Donc voilà, il y a des risques comme la radioactivité qui interpellent beaucoup l'attention, mais je pense que la pollution de l'air liée au feu en général est beaucoup plus, au moins aussi importante, voire peut-être plus importante.
Je pense qu'à la base, comme ils ont couplé le modèle de végétation avec le modèle de feu, et après c'est intégré couplé avec le modèle de transport. Après, à condition évidemment d'adapter la partie santé, puisque là c'est une partie santé qui était quand même liée à la radioactivité, donc il faut revoir la partie santé. Mais j'imagine que c'est une piste tout à fait intéressante. Enfin, qu'ils ont déjà une bonne base du travail, donc c'est pourquoi pas. Je leur passerai le message.